Là, on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé récemment au mois d'octobre avec Pierre Imbert, à savoir la présence des intellectuels dans cette histoire. On les a assez peu vus, surtout si on pense, et Pierre nous y fait penser, à 1995, Juppé qui vient avec son projet sur la sécurité sociale, ce qui suscite une certaine opposition, on va dire, en France, et la présence d'intellectuels comme Pierre Bourdieu, qui vient, en tant que ce qu'il est, un intellectuel, soutenir le mouvement général, et notamment celui des cheminots, en dénonçant dans les mesures et le projet gouvernemental un projet de destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public. Je cite la déclaration fameuse de Pierre Bourdieu. Or là, dans ce mois d'octobre, on n'a pas vu quelque chose d'équivalent. Et ça intrigue Pierre Imbert, cette absence.
Oui, pourtant, on peut dire que le projet de destruction d'une civilisation associée au service public s'est poursuivi depuis 1995. Maintenant, ça fait 15 ans. Et je pense que dans cet intervalle, on a vu deux phénomènes se produire. D'un côté, une résurgence des mobilisations sociales. Et puis, de l'autre, un essor des pensées critiques. D'où ce paradoxe, cet essor des pensées critiques et cette absence des intellectuels pendant le mouvement social. L'essor des mobilisations sociales, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, y ont été associés. Il y a eu novembre-décembre 1995, Daniel Lemermet en parlait à l'instant. Il y a eu aussi l'envol du mouvement altermondialiste à partir de 1998, 1999, 2000, etc. Les manifestations de 2003 contre une réforme des retraites, déjà, avec plusieurs millions de personnes dans les rues. La campagne contre le traité de constitution européenne en 2005, qui avait mobilisé également beaucoup de gens. Les manifestations contre le contrat première embauche et la précarité en 2006, qui s'était achevé sur une victoire des contestataires. Et puis, d'un autre côté, l'essor des pensées radicales au cours de la même période, avec la publication d'un assez grand nombre de travaux critiques du néolibéralisme, critiques de la finance, de l'impérialisme militaire, des impositions culturelles, mais aussi de critiques des médias, de critiques des inégalités de genre, de critiques des formes de domination dans le travail. Bon, aujourd'hui, ça peut paraître un peu banal, parce qu'on a l'habitude d'en voir beaucoup de livres de cet ordre sur les tables de librairie, mais il faut se figurer à quel point, il y a 15 ans, c'était assez rare. Je crois que c'est un livre qui s'appelait « L'horreur économique » de Viviane Forrester, était sorti en 1993. Bon, c'est un livre assez commun, et l'idée de s'en prendre à la pensée unique, à l'économie, l'idée que ce n'était pas naturel, était une idée à l'époque assez saugrenue par rapport aux années 80. Intensité donc des mouvements sociaux d'un côté, vivacité des pensées contestataires de l'autre, et pourtant tout se passe comme si la charnière entre les deux était rouillée, comme si on n'arrivait pas à articuler cet essor des mouvements sociaux et cette vivacité des pensées critiques. Et bon, l'une des manifestations de cette mauvaise articulation, c'est, il me semble-t-il, l'absence des intellectuels pendant les manifestations de cet automne. Et l'hypothèse qui est avancée dans l'article, c'est que si d'un côté, ces pensées critiques, elles se multiplient, elles s'aiguisent, de l'autre, elles se spécialisent, et ceux qui les produisent s'alignent de plus en plus sur les normes en vigueur dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. En d'autres termes, ces pensées critiques s'institutionnalisent, et ce faisant, elles vont peu à peu se couper des forces sociales. À vrai dire, il y a un fait auquel on porte presque plus attention, tant il nous paraît aller de soi, c'est le fait que la plupart des intellectuels contestataires aujourd'hui sont liés à l'université ou au monde de la recherche. Évidemment, ça ne signifie pas qu'une traînée de poudre est en train de parcourir les institutions académiques. Les intellectuels contestataires, ils sont en toute petite minorité. Mais il n'en reste pas moins que la plupart des producteurs de théories critiques actuellement sont liés à l'université. Et on va les retrouver dans des rédactions de revues critiques, on va les retrouver dans des petites maisons d'édition indépendantes, ou à la tête de collections d'ailleurs de grandes maisons d'édition industrielles, qui produisent également des livres critiques. On en retrouve aussi au monde diplomatique, d'ailleurs, il faut bien l'admettre. Et ce constat appelle, à mon avis, une remarque et une question. La remarque, c'est que, d'abord, il n'en a pas toujours été ainsi. Toute l'histoire du mouvement ouvrier montre l'importance de personnages qui étaient à la fois des intellectuels et aussi des dirigeants politiques, des dirigeants de partis. Lénine, Rosa Luxembourg, sans parler évidemment de Marx ou de Bakounine, c'était des personnages qui s'investissaient dans la direction de partis, dans des questions stratégiques liées à la conduite de mouvements, et en même temps des intellectuels qui réfléchissaient à des questions théoriques sur l'impérialisme, sur le salariat, etc. On a eu aussi des grands penseurs qui n'avaient pas suivi d'études supérieures, comme Proudhon, et pendant presque un siècle, les formations de gauche ont produit leurs propres intellectuels, avec par exemple les bourses du travail pour le mouvement anarcho-syndicaliste, avec par exemple les centres de formation pour les partis sociaux-démocrates européens. C'était des intellectuels qui réfléchissaient avec les outils de la science, si tout se passait bien, mais sur des problématiques proprement politiques, des problématiques qui n'étaient pas nécessairement dictées par l'université, par les institutions académiques, mais par des questions proprement politiques. C'était des intellectuels qui, en théorie, étaient capables d'interpréter le monde de diverses manières, comme dirait Marx, mais également de s'intéresser aux manières concrètes de transformer le monde. Bon, cette manière de produire des intellectuels, les institutions qui produisent ces intellectuels ont peu à peu disparu. Oh.